Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, les derniers jeux, les dernières nouvelles et que de nouvelles. L'information la plus cataclysmique de ces dernières années, enfin je dis ça mais j'oublie presque la collaboration entre Microsoft et Nintendo, et ben il y a encore plus fort la collaboration entre Microsoft et Sony. On va vous détailler tout ça dans un instant, on va aussi parler de nos prévisions pour l'E3, on va parler de quelques jeux auxquels on a joué, plein d'autres petites news aussi. Et quand je dis « on », je veux dire moi, Patrick Béja, et j'ai l'immense plaisir de recevoir à nouveau dans l'émission Chloé Wattier. Comment ça va, Chloé ?
Eh bien, ça va très bien, merci. Même si je me remets doucement du final de Game of Thrones, que je n'ai pas aimé, mais sinon ça va.
Écoute, je crois que t'es pas la seule. On va pas du tout spoiler Game of Thrones, mais je mentionnerai simplement le fait que, en plus des controverses que l'épisode a provoqué et la saison a provoqué sur les réseaux sociaux mondiaux du monde, cet épisode a failli nous priver de ta présence dans l'émission, puisque énervé, tu as fait l'erreur d'aller, après le visionnage de l'épisode, d'aller sur Twitter et les forums pour t'en plaindre et entretenir ta rage, et du coup tu t'es presque pas réveillée pour l'émission.
Il y avait une petite catastrophe parce que je me suis couchée très très tard parce que je sentais qu'il fallait que toute ma haine et tout mon énervement s'en aille avant que j'aille me coucher. Ça a pris un peu de temps. Voilà.
Oui, je comprends. Bon, j'aimerais bien en parler aussi, mais je crois que ça serait une discussion un petit peu trop longue et trop animée. Dans l'ensemble, parce que je suis sûr qu'il y a des gens dont le sang a bouilli aussi à l'écoute de ces quelques mots, dans un sens ou dans l'autre, moi je dirais simplement que tout aurait pu fonctionner s'ils avaient mis deux saisons de plus à amener tous les personnages là où ils sont arrivés. Et c'est ça qui, je crois, est le fil rouge qui réunit toutes les frustrations de tous les spectateurs, même si certains pensent que même en plusieurs saisons, ça aurait pas été possible, mais... Je sais pas, moi c'est mon impression quoi. C'est allé trop vite quoi.
Ouais, c'est allé trop vite et en fait, ça m'a vraiment perdu. C'est sur les deux derniers épisodes parce que avant, j'étais pas tout à fait d'accord sur tout, mais bon, je disais ça passe, ça va quand même. Mais là, les deux derniers épisodes, là, ça y est, c'était fini. J'ai dit ok, terminé.
Je vais
relire les livres.
Malgré tout ça, je serais quand même curieux de savoir, d'avoir une série, disons, dans 10 ans, sur ce qui se passe après. Et certains personnages qui n'ont pas trépassé dans les derniers épisodes, j'aurais curieux de voir où ils en sont après toutes ces aventures. Donc quand même, ces 8 ans, 10 ans d'épopée, il en reste quelque chose, quoi, malgré la frustration, je pense.
Ouais, bah moi, ce que j'attends, c'est de lire la version livre, la version de George Martin, la vraie version, voilà. la vraie histoire canon. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour de vrai? Donc, je trépigne en attendant enfin des annonces, parce que ma théorie, c'est que le livre numéro 6 est écrit, mais ou sur le point d'être terminé, et qu'ils voilà, vont bientôt l'annoncer, donc je croise les doigts pour que ça arrive. Et ça calmera ma peine.
C'est pas bête ce qu'il a fait, Martin, parce que selon certains, il a fait traîner justement pour pouvoir sortir les livres après la série, parce que s'il la sortait en même temps ou avant, ça aurait eu beaucoup moins d'impact, alors que là, qu'elle ait été réussie ou pas la série, les gens sont excités de les lire maintenant qu'il n'y a plus la série pour faire concurrence aux livres. Peut-être que c'était intentionnel de sa part. En tout cas, il prend son temps, le monsieur.
Ah, ça aussi.
Bon, peut-être qu'on fera un épisode spécial Game of Thrones de Positron, mon émission de pop culture, mais en même temps, Positron, c'est des trucs positifs. Donc, je sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, on est là pour parler de jeux vidéo et on va parler donc de cette incroyable annonce entre Microsoft et Sony. Pour ceux qui auraient dormi dans une cave ces deux dernières semaines, je résume rapidement ce qui s'est passé. Microsoft et Sony ont fait une déclaration de collaboration sur les infrastructures de leurs services et de jeux vidéo pour l'avenir. En gros, on parle vraiment de la prochaine génération et notamment de la prochaine génération de consoles Sony, donc la prochaine PlayStation. Sachant que ils ont rien détaillé de la manière dont ils vont collaborer, mais en gros, ce qu'on en retire, c'est que Sony va utiliser les services de cloud et les serveurs de Microsoft, donc les serveurs Azure, pour les services de sa prochaine console, de sa prochaine génération. Et c'est évidemment surprenant parce que Microsoft a de son côté la Xbox et la prochaine Xbox qui va elle aussi mettre beaucoup d'emphase sur les services en ligne et le streaming. Et on n'imaginait pas que Sony aille voir du côté de Microsoft pour les aider sur cette initiative. Chloé, je te pose tout de suite la question. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette annonce ?
Alors, quand je l'ai lu, j'ai fait waouh! Et en fait, je trouve que c'est un excellent move de Sony, mais ça, j'y reviendrai peut-être après. Par contre, j'ai été un peu déçue par la couverture de cette actualité. Je pensais que ça allait faire beaucoup plus les gros titres un peu partout, et j'ai trouvé que c'était un peu faible, en fait, un petit peu, enfin, dans la presse internationale, alors que c'est quand même une alliance que je trouve quand même ultra intéressante et de poids, en fait, pour l'avenir. Parce que, on sait très bien que pour les prochaines consoles, que ce soit la génération suivante ou celle qui viendra après, vraiment, le cloud gaming va être un indispensable. On va certainement tous passer par ces services-là pour jouer à nos jeux vidéo du futur. Et pour ça, pour qu'un service de cloud gaming fonctionne, il faut que tu aies des serveurs qui soient puissants. Et malheureusement pour eux, Sony, ils sont un petit peu en retard dans la course... Dans la course au cloud. Donc ils ont le PlayStation Now, leur service de cloud gaming qui fonctionne pas terrible. Parce que là, ils ont que 700 000 clients. C'est pas non plus, c'est pas énorme. Quand t'as une base installée de quasiment 100 millions de PlayStation 4 dans le monde, c'est quand même un ratio qui est extrêmement faible. Et donc, en fait, Sony, ils avaient deux choix. C'était soit de se dire, on s'en fiche. On fait notre cloud, on investit comme des porcs, on y va, on va perdre un fric monstrueux pour un résultat, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ou alors, option plus raisonnable, on s'allie avec des gens qui savent faire. Et les gens qui savent faire, y en a trois. Il y a Microsoft, il y a Google et il y a Amazon. Donc, à partir de là, tu dis, bon, vers lequel je vais aller ? Alors, tu te dis, Google, ils vont se lancer dans le cloud gaming avec Stadia, puis c'est des nouveaux venus. Amazon, pour le moment, ils n'ont rien dit, mais ils vont très certainement lancer des choses aussi dans Cloud Gaming. Et puis aussi, c'est des nouveaux venus. Et puis, il te reste Microsoft. Microsoft, on les connaît. C'est déjà des partenaires techniques. On s'entend globalement quand même plutôt bien. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'allierait pas, en fait, pour être plus fort face aux nouveaux venus qui arrivent avec des couteaux dans les dents qui s'appellent Google. Enfin, pour moi, ça me paraît extrêmement logique, en fait, cette alliance. C'est parce que Sony, s'ils faisaient rien, pour moi, ils étaient perdus sur les générations suivantes de consoles. Enfin, c'était mort par chaos technique, parce qu'ils n'avaient pas les ressources pour.
C'est sûr que ils ont alors leur service PlayStation Now, comme tu le dis, ils sont à 700 000 selon les dernières informations qu'ils ont livrées, 700 000 abonnés, ce qui est pas négligeable, mais clairement qui n'est pas au niveau de ce qu'on peut ambitionner pour l'avenir. Si c'est pas un mot français, ambitionner, mais je l'utilise quand même. Alors il faut noter que le PlayStation Now, c'est pas non plus leur première priorité. L'offre commerciale du PlayStation Now est quand même pas celle qu'on peut espérer pour les générations à venir, c'est-à-dire une sortie, une disponibilité le même jour pour tous les titres, les gros titres sur le service de streaming et sur la console elle-même. C'est vers ça que semblent se diriger et Microsoft et Sony, du peu qu'on en a vu pour l'avenir. Évidemment, alors comme tu le dis, sur la prochaine génération, ça va commencer à prendre de l'importance. Sur la génération d'après, s'il y en a une et que c'est pas juste des services qui sont là et voilà, eh ben ça risque de devenir une grosse, grosse une grosse partie immanquable de ce type de service. N'en déplaise aux gens qui disent « moi, je voudrais garder ma console à la maison toute ma vie », ce qui sera probablement le cas d'une majorité d'auditeurs pour un bon moment encore, mais oui, ils n'avaient pas le choix. Moi, j'avais pensé qu'ils iraient vers Amazon, parce qu'effectivement, c'est ceux qui sont le moins en concurrence directe avec Sony, sur le marché du jeu vidéo. Et effectivement, d'après ce qu'on a entendu, les rumeurs qui sont sorties chez Bloomberg, ils avaient commencé à discuter avec Amazon et ils n'ont pas réussi à trouver d'accord. Moi, ma théorie, c'est que Amazon s'est dit « bah, vous êtes gentils les gars, chez qui vous allez aller ?» Comme tu le dis, Chloé, il y a trois sociétés. On pourrait même inclure Facebook à la limite dans le lot, mais Facebook, c'est vraiment pas leur intérêt de vendre leurs services à d'autres. Mais il y en a trois. Il y a Google, Amazon et Microsoft. Amazon voit bah, les deux autres, ils font vos concurrents, donc vous allez venir chez nous, forcément. Eh ben non, Sony a très intelligemment été du côté de Microsoft. Ils en ont absolument besoin de cette infrastructure pour le grand pari sur l'avenir. Là où c'est intéressant, c'est du côté de Microsoft aussi, qui... De prime abord, si on fait une analyse un petit peu légère, on se dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils donnent des services à leurs concurrents. » Oui et non. C'est un petit peu comme Samsung qui fournit des écrans ou des puces à Apple. OK, ils sont concurrents sur le marché des téléphones mobiles, mais Samsung fait aussi beaucoup, beaucoup d'argent sur les ventes de composants. Et s'ils peuvent faire de l'argent en vendant leurs téléphones et en vendant les téléphones, et quand les téléphones des concurrents sont vendus aussi, bah, il n'y a pas vraiment de raison de s'en priver. Et Microsoft fait le même calcul depuis longtemps sous l'égide de Satya Nadella, en essayant de ne plus du tout se reposer sur Windows et en misant à fond sur le cloud et en misant sur l'infrastructure du web qui continue de grossir à un rythme effréné. Et là, c'est un calcul hyper malin de se dire, bah, sur le gaming, quoi qu'il arrive, alors à l'exception de Google avec ses annonces de ces dernières semaines avec Stadia, mais quoi qu'il arrive, quand il y a des trucs qui se vendent, eh ben nous, on fait de l'argent aussi. Et la Xbox représente une petite partie, je crois que c'est 10% du chiffre d'affaires de Microsoft, donc là où le cloud représente une bien plus grosse partie. Donc,
oui, c'est exactement ça. C'est plutôt la vision de Microsoft, c'est faisons-nous un peu d'argent sur le jeu vidéo, faisons-nous énormément d'argent sur le cloud. Voilà, comme tu disais, les résultats financiers sont assez clairs là-dessus. Le cloud, c'est vraiment maintenant le moteur de Microsoft. Donc, pouvoir signer Sony, c'est pour eux aussi, c'est une excellente nouvelle. C'est un client de prestige qu'ils ajoutent à leur catalogue. Et oui, alors, c'est vrai qu'on a vu des interprétations un peu rapides en mode « Oh là là, mais du coup, il va y avoir une offre de cloud gaming unique entre Microsoft et Sony et ça va faire du coup, il va y avoir tous les jeux qui vont être ensemble. » Non. On n'est pas sur ça du tout. Hein. Donc, c'est vraiment un partenariat technique. Et c'est une brique qu'auront en commun dans le futur les Xbox et les PlayStation. Elles auront cette brique commune qui seront ce cloud de Microsoft Azure. Mais le reste, pour le reste, chacun fera comme il veut. Et il y aura toujours des services différents, des jeux exclusifs. Chacun fera sa petite sauce autour. Enfin, ça ne veut absolument pas dire que Microsoft lâche le morceau sur le jeu vidéo et que la division Xbox va être fermée. Enfin, j'en sais rien. Enfin,
au contraire.
Parce que c'est quand même... Bien au contraire, c'est monté quand même très très loin les surinterprétations de cette annonce.
Je crois qu'il fallait vraiment pas comprendre grand chose à l'industrie pour aller aussi loin dans les fantasmes. Mais c'est un petit peu comme les Xbox et les PlayStation utilisent des processeurs AMD. Et voilà, ça veut pas dire que c'est les mêmes consoles. On est vraiment sur cette idée de plateforme. Les plateformes sont différentes et les offres commerciales seront très différentes, évidemment, avec des jeux très différents. C'est même là qu'est tout l'intérêt du truc. Donc, ça va rester les exclusivités. Et d'ailleurs, Microsoft s'est largement équipé en termes de studios et d'exclusivités pour proposer une offre convaincante. Ah, il y a un téléphone qui sonne.
Oui, c'est mon téléphone fixe, mais il est très, très loin, donc je ne peux pas me...
D'accord, c'est pas grave. Oui, donc voilà, c'est quelque chose de super cohérent. qui n'en est pas moins, comme je le disais en introduction, cataclysmique, parce que jamais, même si maintenant on comprend que ça s'explique tout à fait, moi jamais j'aurais imaginé que ça serait le cas, parce que, bah, je le disais, pour moi l'option évidente était celle d'Amazon pour Sony. Mais ça, du coup, on peut dépasser la constatation et aller vers les supputations. Qu'est-ce que ça veut dire pour Microsoft, au-delà de leur offre Xbox et de la collaboration avec Sony? Alors, il y a quelques autres aspects de l'accord qui est Sony va fournir des capteurs photo à Microsoft pour ses Kinect et assimiler. Bon, ça, c'est vraiment un petit aspect pour faire genre, bon, Sony file aussi des trucs, c'est vrai qu'ils sont très forts sur les capteurs.
C'est pour faire, voilà, c'est donnant-donnant. Bon, bah, ok, tu nous aides sur le cloud. Bon, bah, nous, on est très fort sur quoi? Sur les capteurs. Eh bah, allons-y, on va aussi vous aider sur les capteurs. Ah, et puis, oh, l'intelligence artificielle. Ouais, faisons des choses ensemble.
Ouais,
d'ailleurs, quand tu lis le communiqué, en plus, j'adore la prudence qu'ils mettent. C'est genre, les deux sociétés examineront la possibilité de peut-être éventuellement travailler ensemble, mais on n'est pas sûr, mais peut-être. Enfin, il est assez incroyable à lire ce communiqué. Enfin, tu sens toute cette prudence, alors que bon, t'as quand même les deux gars qui se serrent la paluche juste à côté. Donc, ouais. Tu sens que c'est pas juste, oui, on va regarder, puis on verra. Hein. Ça va quand même.
Même dans le terme, c'est un mémorandum de collaboration. Enfin bon, c'est a priori l'essentiel du truc, c'est Microsoft qui vend des services à Sony et basta. Mais il est effectivement possible que sur leur base installée d'utilisateurs, ils collaborent ensuite pour améliorer les services. Et dans le lot, c'est Sony qui en a le plus besoin sur l'aspect en ligne parce que leur réseau est moins puissant. Même s'ils disent avec le PlayStation Now, ils ont une infrastructure qui peut tenir jusqu'à 5 millions d'abonnés. On n'y est pas encore du tout. Mais je pense que le PlayStation Now va lentement, ou peut-être même pas lentement, évoluer sur la nouvelle infrastructure à terme. Une autre chose peut-être à mentionner, c'est de voir à quel point le renouvellement des générations, auquel d'ailleurs Sony a réitéré sa confiance. Il dit on a besoin de différentes générations de consoles. Ça, on verra ce qui se passe à la fin de la prochaine. Mais l'importance de ce grand bouton reset sur lequel on appuie à chaque nouvelle génération, parce que là, Sony fait plein de choses qui sont assez inattendues pour préparer la prochaine génération. Là, ils ont complètement gagné celle-ci. Ils ont trois fois plus de consoles de base installées sur cette génération que Microsoft. Mais quand arrive la prochaine génération, et ben, tout est remis à zéro. Et Sony, qui avait refusé, d'ailleurs, on a notamment vu cette annonce qui était tout aussi inattendu de Sony qui accepte d'avoir le service d'abonnement EA Play sur PlayStation 4 à partir de maintenant, alors qu'ils avaient refusé il y a 5 ans totalement de le voir arriver. Ce qui sera, à mon avis, pour moi, c'est vraiment une décision stratégique pour la prochaine génération. Parce que si on a sa grande remise à zéro et qu'il y a des services qui ont plus de possibilités offertes que d'autres, c'est-à-dire spécifiquement sur Microsoft, sur Xbox. Moi, je crois d'ailleurs que la prochaine console de Microsoft va s'appeler la Xbox. Et ça sera le service Xbox et la Xbox. Et il n'y aura pas de Xbox 2 ou X machin, ça sera un retour aux sources. Mais si on a sur Xbox plein de jeux, des exclusifs, tout ça, et du service EA Access et d'autres services du genre, et peut-être que les gens se diront « ouais, ils sont sympas chez Sony, mais ici, j'ai plus de trucs ». Donc, à mon avis, c'est plus pour ça qu'ils ont accepté, mais c'est quand même surprenant. Si on part un tout petit peu dans le délire fantasmatique, sans avoir effectivement une plateforme commune, est-ce que tu pourrais imaginer qu'une étape suivante soit que le service de Microsoft soit disponible sur… Alors, on avait évoqué la Switch, le service streaming de Microsoft sur la Switch. Idée en laquelle, moi, je me dis, c'est pas que j'y crois, mais je me dis, c'est pas inimaginable du tout, c'est même possible, sans dire probable, mais c'est peut-être possible. Est-ce qu'il serait possible aussi qu'un service Microsoft arrive sur la prochaine console de Sony également? Ou est-ce que là, c'est un petit peu trop fantasmé?
Alors, je reviens sur le côté Nintendo. Pour moi, ça me paraît tout à fait envisageable que Nintendo passe par Microsoft Azure pour tout ce qui est cloud.
Ce dont je parle, c'est le service xCloud de Microsoft, genre de streaming, qui va arriver avec la prochaine génération, qui est une app sur ta Switch qui soit ce service de streaming. Donc, tu puisses jouer aux jeux Microsoft sur Switch en streaming.
J'allais dire au point où on en est, pourquoi pas, hein, mais pourquoi pas, hein, mais en tout cas que Nintendo utilise aussi les infrastructures cloud de Microsoft, j'y crois carrément, parce que c'est vrai que ce qu'on voit moins nous depuis l'Europe, c'est qu'au Japon il y a déjà beaucoup de jeux Switch qui sont disponibles en cloud.
On avait vu Resident Evil 2, Assassin's Creed je crois pendant un moment.
Assassin's Creed, t'avais Final Fantasy 12 Remake aussi qui fonctionnait avec ce service de cloud, parce qu'ils passent par des fournisseurs de cloud asiatiques, je me souviens plus de leur nom, mais en tout cas ça fonctionne là-bas, et là-bas ils le font. Donc tu dis, il n'y a pas de raison qu'ils finissent pas par le faire aussi à l'extérieur, mais après oui, alors de se dire que après Microsoft vendra un peu des sortes de bundle en ligne, des abonnements en ligne pour accéder à leurs jeux exclusifs. Oui, pourquoi pas. Après, je t'avoue que, moi, ça me ferait vraiment bizarre qu'on en arrive à ce stade-là, parce que tu arrives au stade du, à quoi bon choisir une console Sony plutôt qu'une console Microsoft, parce que c'est quand même, certes, il y a les services, mais aussi pas mal des jeux en fait qui guident ton choix sur quelle plateforme tu vas prendre plutôt qu'une autre. Donc si tout est mélangé, si tu peux prendre du Microsoft ou du Sony ou du Nintendo sur une plateforme qui n'est pas la leur. Bon, je sais pas si on ira aussi loin, mais...
Pardon, vas-y, finis.
Vas-y, continue.
Je crois que ça pourrait arriver, parce que si on regarde la chose du point de vue... C'est ce que j'avais dit à propos de Nintendo à l'époque. Les gens achètent des consoles Nintendo pour les jeux exclusifs Nintendo. Après, s'ils peuvent, de la même manière que Microsoft, bénéficient de la vente de la popularité, on va dire, de Sony, de la PlayStation, parce qu'ils sont fournisseurs de cette infrastructure, pourquoi pas se dire, Nintendo, de toute façon, ils vendent leurs consoles pour leurs exclusifs, et ensuite, s'ils prennent un petit peu d'argent de Microsoft quand les utilisateurs de Switch jouent à des jeux Microsoft sur Switch, pourquoi pas ? Et ça s'applique aussi à Sony, je crois. Si on a... Alors, l'achat des consoles, je crois, va rester important pour les core gamers pendant un bon moment, parce que tous les core gamers que nous sommes vont vouloir jouer sans latence. En tout cas, au moins sur une des consoles, sur notre console préférée. Donc, on va acheter... La plupart des gens achètent une console, peut-être une PlayStation ou une Xbox et une Switch. Ça fait deux consoles, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, si on a un utilisateur essentiellement de PlayStation qui se dit j'aimerais bien checker Halo, voir ce que ça donne, s'il y a la possibilité de le faire, disons que il peut le faire sur son PC ou sur sa box internet, donc il va le faire de toute façon. Et si il le fait sur la console Sony, sur la console physique Sony qu'il a dans son salon, du coup Sony récupère un petit peu d'argent de Microsoft, parce qu'il y a un accord commercial évidemment dans ce genre de conditions. Alors que si il est pas disponible sur la console Sony, il va aller le faire sur sa box. Donc je me demande si c'est pas quand même cohérent à partir du moment, évidemment, et ça c'est le cœur de tous ces services qui sont des plateformes aujourd'hui, qu'on parle de streaming vidéo ou d'autres choses, si évidemment il y a des exclusifs, des jeux exclusifs qui sont suffisamment motivants pour que les joueurs aillent quand même s'intégrer à l'écosystème du fabricant qui vend ces jeux exclusifs. Donc pour moi, alors, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, mais ça ne me paraîtrait pas si surprenant que ça, étant donné que d'un point de vue disponibilité et des services et business, on a ce donnant-donnant qui s'installerait. Est-ce que je t'ai convaincu un peu ?
Non, mais oui, mais après, tu vois, je pense aussi qu'il faut garder une petite dimension exclusivité, parce que si tu tues l'exclusivité, j'allais dire, tu tues une partie, j'allais dire, de la culture console,
non,
qui
mais
est
en
la
plus,
culture
là,
de la guéguerre.
Évidemment, de ce côté-là, mais j'irais même plus loin. Si on n'a plus d'exclusivité, les plateformes n'ont plus d'intérêt. C'est exactement le même truc qu'avec Stadia, qu'avec Netflix et Amazon Prime et tous ces services de streaming. S'il n'y a pas d'exclusivité, les services n'ont aucun intérêt. Donc l'exclusivité, de la même manière que quand c'était la guerre des consoles physiques, l'exclusivité attire le client et ensuite tu te fais plus d'argent sur ce client qui est dans ton écosystème. Et donc les exclusivités sont absolument essentielles et ne vont pas du tout disparaître. Il y en aura toujours à mon sens.
Oui, bah ouais, ouais, je pense aussi. Je pense qu'on ira sur ce système-là, oui.
Possible. Bon, on verra. En tout cas, le prochain rendez-vous, c'est l'E3 avec les grandes annonces de Microsoft pour sa prochaine console. Juste un petit mot encore sur Sony. Ils ont annoncé qu'ils avaient un nouveau département qui va se concentrer sur l'adaptation en film et en télé de leur licence jeux vidéo. Visiblement, ils ont été impressionnés par la manière dont Marvel a adapté les comics en ciné en l'occurrence et TV à venir. Et ils se disent pourquoi pas enfin faire du bon boulot sur des adaptations de jeux vidéo. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant en espérant qu'ils aient les bonnes personnes dans ce département, évidemment. Mais à voir.
Ouais, c'est toujours ça qu'ils ont des IP. Ça paraît extrêmement logique qu'ils les exploitent pour en faire des séries, voire des films. Après, bon, on connaît notre grande méfiance vis-à-vis des adaptations de jeux vidéo. Dernièrement, Détective Pikachu a prouvé que c'était possible de faire un film. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé.
J'ai hâte de le voir.
C'est vraiment bien. C'est vraiment respectueux de la licence. C'est drôle. Ça parle même aux gens qui connaissent vaguement Pokémon. Enfin, pour moi, c'est vraiment une adaptation réussie, mais ça coche toutes les cases. Donc, si Sony arrive à nous faire pareil avec, je sais pas, du God of War ou avec du The Last of Us, ma foi, je signe. Hein.
Oui, ça serait un. Alors, c'est très dangereux aussi parce que. Généralement, il est difficile d'adapter les trucs sur les personnages principaux. Donc, peut-être que si tu le fais sur les personnages principaux, est-ce que c'est canon ou pas ? Ou est-ce que tu redis exactement la même histoire ? Est-ce que ça a un intérêt ? Peut-être que oui, je ne sais pas. L'adaptation des comics en cinéma, c'est une forme tellement différente que c'est jouissif de les voir à l'écran. Mais je ne sais pas si ça serait aussi jouissif, par exemple, de revivre l'histoire du dernier God of War en film. Je sais pas. Mais peut-être qu'il faudrait refaire les anciens ou une histoire différente, j'en sais rien, mais
ouais, généralement,
il y a des moyens.
Pour ce genre d'adaptation, ils se basent sur un univers, mais à partir de là, ils créent une histoire totalement nouvelle. Enfin, par exemple, je pense au film Assassin's Creed. Ça reprenait absolument aucun jeu. Et bon, ça se basait sur l'univers, etc. Mais c'était une histoire totalement nouvelle.
Pourquoi pas, ouais. Oui, mais Assassin's Creed n'a pas un seul personnage emblématique. Faire God of War sans Kratos, c'est bizarre quand même.
Oui.
Donc, et pareil, faire encore que The Last of Us, j'allais dire faire The Last of Us sans Joel et Ellie, c'est un peu bizarre. Mais l'univers se prête peut-être à des histoires, une tension dramatique importante. Bon, bref. Donc, voilà pour cette grosse news. Je mentionnerai également, parce qu'il y a plein de gens qui vont en parler, je suis sûr. C'est un petit peu comme quand on a vu les premiers jeux Sega arriver sur les consoles Nintendo. Ça nous a fait tout bizarre. C'est pas exactement la même chose, mais il y a un petit peu de ça quand même. On évoquait un petit peu l'E3 juste avant. Il y a quelques news E3 et ça va nous donner l'opportunité de faire nos mini-prédictions sur ce qui va se passer à l'E3. EA a décidé de réunir son streaming en une journée pour que ça soit facile à voir. Je pense que c'est une bonne décision. Ils avaient annoncé qu'ils allaient faire plein de petits streamings à droite et à gauche pendant tout l'E3. C'était vraiment une décision bizarre. Là, il y aura en fait, dans les fêtes, pour les gens qui ne seront pas au salon, une grosse session de streaming de EA qui va montrer toutes ses nouveautés. Je pense que c'est pas plus mal de le présenter comme ça. Il va y avoir Epic qui va présenter des nouvelles exclus. On parlait d'exclus et de l'importance pour les plateformes. Voilà encore un exemple. Ils vont en présenter au PC Gaming Show à l'E3. Donc ça risque d'être intéressant aussi. Il y a des annonces.
Des exclus du coup pour l'Epic Game Store.
Ah je pense, oui. Moi, c'est ce que j'imagine. Que ça soit des jeux développés par Epic ou des studios qui vont acheter ou d'autres, ça sera des jeux qui seront exclusivement sur l'Epic Game Store. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le méga sale d'Epic qui a eu lieu là ces derniers jours, où ils ont mis 10$ de moins ou 10€ de moins pour tous les jeux qui coûtaient 15€ ou plus. Et ils ont fait ça. Alors, c'est eux qui donnent ces 10 dollars. C'est pas le, ils les payent, en fait, aux développeurs. Mais certains développeurs ont dit, oula, mais attendez une seconde, de quoi vous parlez là? Non, non, nous, on veut pas que nos jeux soient moins chers que dans d'autres, sur d'autres plateformes. On nous a pas prévenus, là. Donc, ils ont retiré leurs jeux de l'Epic Game Store jusqu'à la fin du Mega Sale. C'était amusant. Moi, en voyant ça, je me suis dit, ah bah voilà, Epic qui vous donne de l'argent, personne va pouvoir se plaindre, là, pour le coup, quand même. Ah bah si, il y a quand même eu un couac, mais c'était du côté des développeurs.
Bah ouais, mais ça c'était une belle erreur de com de leur part. Hein. Enfin, ouais. Voilà, de décider de faire ça sans consulter les studios, c'était ouais. Un petit peu limite.
Je pense qu'ils ont dû envoyer un mail genre voilà les conditions du sale et ils ont mis en ligne 14 en petits caractères. mais bon, moi ce que j'en pense c'est que c'est un store qui est encore assez jeune et ils font des erreurs de débutants. Et bon, je pense que ça sera d'ici 2 ou 3 ans, on parlera plus trop de tous ces problèmes, je pense. Quoi d'autre ? Il va pas y avoir de Google à l'E3. Ils vont pas présenter plus de choses sur Stadia. Ce qui, moi, me paraît surprenant, j'aurais pensé. Ça m'inquiète un petit peu sur le contenu du service, parce que peut-être qu'ils veulent se garder une plage de communication un peu plus libre que l'E3. Mais c'est quand même le moment de parler de toutes ces choses-là. Je ne sais pas quoi en penser.
Moi aussi, en fait, j'étais un peu surprise parce qu'évidemment, j'ai contacté Google pour réserver des rendez-vous si jamais ils étaient présents à l'E3 pour pouvoir faire des interviews, etc. Et donc, ils ont fini par me répondre comme ils ont répondu aux autres médias que non, ils n'auraient pas de stand, que oui, il y aurait des gens de Stadia qui traîneraient dans les couloirs pour faire des rendez-vous business.
Ouais, mais ça, c'est que non, ils ne parlent pas des jeux sur leur plateforme, quoi.
Voilà, mais il parlerait absolument pas à la presse, mais que par contre, il y aurait une prise de parole dans les semaines après l'E3. Donc voilà, ils vont faire leur propre... De toute façon, il l'avait dit, hein, qu'il y aurait quelque chose, il y aurait des choses annoncées durant l'été, il y aurait beaucoup plus d'infos sur le contenu, le prix, l'abonnement, comment ça allait marcher, etc. Ce serait pour cet été. J'avoue, oui, je suis déçue, parce que je pensais qu'ils auraient profité de l'E3 pour pas forcément tout dire, mais au moins se montrer au public, parce que l'E3 c'est devenu un événement public pour pouvoir montrer aux gens voici à quoi ressemble notre plateforme, regardez un petit peu. Donc move un petit peu surprenant.
Moi je savais pas qu'ils avaient déclaré qu'il y aurait des informations dans les semaines après l'E3. Ils avaient parlé de juin, donc tout le monde partait du principe que ça serait l'E3, mais du coup maintenant que tu le dis, je me dis peut-être qu'ils veulent faire quelques deals supplémentaires en plus à l'E3, aller voir des gens, aller les convaincre pour avoir plus de choses à annoncer, genre 3 semaines après, quand ils feront leur deuxième prise de parole. Peut-être que c'est le but de la manœuvre, de ce schedule.
Après,
quoi.
Tu vois, je me demande maintenant quel va être l'impact de l'alliance Sony-Microsoft sur Stadia, enfin tu vois, sur le fait que les gens se disent est-ce qu'on va mettre nos jeux sur Stadia ou pas, quoi. Est-ce qu'on mise sur le bon cheval si on décide de... Parce que évidemment Stadia va vouloir avoir des exclusivités, si on se met sur eux plutôt que de rester dans l'ancien monde, dirons-nous.
Moi je crois que pour Stadia, l'important va aussi être d'avoir à la base des jeux tout court. Alors, des exclusivités, bien sûr, aussi, mais des jeux tout court. Ils ont une plus grande facilité dans le processus d'accès, parce que Google est présent partout, ne serait-ce que YouTube offre à énormément de gens la possibilité de cliquer sur un lien et de lancer un jeu tout de suite. Donc, c'est un avantage qu'ils ont par rapport aux deux autres acteurs. Enfin, quand on parle des gros, de Microsoft et Sony. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les relations qu'ont ces deux acteurs avec toute l'industrie. Donc, ils veulent engranger des jeux, même s'ils ne sont pas exclusifs, je pense. Alors, bien sûr, s'ils peuvent être exclusifs, c'est encore mieux. Mais j'imagine qu'ils vont sortir le chéquier et essayer d'avoir des jeux tout court pour arriver, pour que leur... Parce que imagine, le service doit être lancé avant la fin de l'année. S'il n'y a pas un catalogue qui est un petit peu convaincant, en même temps, on ne sait pas quel va être leur business model. Ça se trouve, il n'y aura pas d'abonnement, au moins au début. Et les jeux vont être, 2 heures gratuits au début. Et puis après, tu payes quand tu joues tant à la minute. On pourrait imaginer plein de choses. Et dans ce cas-là, l'importance du catalogue est un petit peu moins grande parce que comme il n'y a pas de barrière à l'accès au départ, on n'a pas besoin d'acheter une console ou de payer un abonnement, et ben dans ce cas-là, la richesse du catalogue est moins importante. Donc, je ne sais pas, je suis encore... il va falloir attendre de voir ce qu'ils vont dire dans les semaines à venir.
Il va falloir voir. Et moi, franchement, je suis curieuse de voir quelle va être la réaction des studios. Je pense que pour les indés, ça va être... Bon, ça va être un peu un effet Eldorado comme a pu être la Switch à ses débuts, c'est-à-dire il n'y a personne, donc allons-y parce que ça nous fait une exposition de malade. Après, sur le plus long terme, je ne sais pas, les gros studios, les gros éditeurs, Ubisoft, on sait qu'ils sont plutôt tentés, enfin, ils vont y aller, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que, mine de rien, pour moi, Google, c'est un peu le renard qui rentre dans le poulailler, quoi. Donc,
quel serait le désavantage à aller sur Stadia, à ton avis, au-delà du fait que ça coûte un peu peut-être de porter le jeu sur Stadia?
On va faire la théorie du pire. Ce serait que Stadia, ce soit un remake de l'histoire de Netflix. Donc, c'est-à-dire que c'est un service qui a besoin des contenus des autres pour exister. Donc, tout le monde y va parce que l'argent, l'échec, on y va, on prend l'argent qui passe. Ce qui te permet à Netflix / Stadia de grossir, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir produire leur propre contenu. Donc, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont dit clairement, Google, en embauchant Jade Raymond et en fondant leur propre studio. Et ensuite, ce qui est le cas de Netflix, aujourd'hui, Netflix fonctionne aussi énormément grâce à ses exclusivités. Et les historiques qui travaillent avec eux se retirent tous de Netflix pour pouvoir faire leur propre service concurrent parce qu'ils disent, en fait, on a nourri la bête pendant toutes ces années. Donc,
mieux aller directement essayer de créer son propre service de streaming auquel beaucoup réfléchissent? Ouais.
Voilà, plutôt que de nourrir le service qui nous tuera, entre guillemets, dans quelques années. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a en tête.
J'y avais pas pensé, oui, mais c'est vrai qu'avec tous ces services de streaming, en fait, ils deviennent tous concurrents. Si Ubisoft crée le sien, si EA crée le sien, et on sait qu'ils y réfléchissent, ouais, pas bête.
EA veut créer le sien, après, est-ce qu'ils vont y arriver, ça, j'en sais rien. Ubisoft, j'en avais discuté avec eux, j'en ai discuté avec Yves Guillemot, et lui, il me disait clairement qu'il ne croyait pas du tout au fait que chaque éditeur aurait son propre service. Son service standalone avec sa propre infra, etc. Il dit ça, j'y crois pas. En fait, lui, ce qu'il me disait, il croyait plus à un système, on va dire, à la CanalSat, où en gros, tu t'abonnes à un provider géant, donc qui s'appellerait Google ou Microsoft ou Sony, et qu'à partir de là, tu pourrais prendre des bouquets je vais prendre le bouquet Activision Electronic Arts, et puis je vais ajouter un petit bouquet Ubisoft en plus. Enfin voilà, lui, il voyait plus un système comme ça, où il y aurait quand même un distributeur central, qui serait ou Google, ou Microsoft, ou Sony. Et à partir de là, voilà, tu pourrais t'abonner au service d'abonnement, au catalogue plutôt, à un catalogue d'éditeurs.
Ce qui est d'ailleurs en train de se passer un petit peu avec l'arrivée du EA Access sur PlayStation 4, même si c'est pas le full EA Access, le EA Access Premier qui est dispo sur PC. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui entendent ça et qui vont se dire « Oh, mais quelle horreur !» qui vont serrer les dents et qui vont se dire « C'est la mort de mon portefeuille parce qu'il va falloir s'abonner à 12 services différents. » Ok, c'est vrai. Mais comme je le disais à l'époque où on a commencé à entendre parler de ces services, moi, ce que je dis souvent, c'est que si vous êtes un core gamer, je pense que vous dépensez généralement peut-être une cinquantaine d'euros par mois en jeu. Vous achetez un jeu par mois, je pense, plus ou moins, en moyenne. Hein. Je suis sûr que vers la fin de l'année, vous en achetez peut-être un petit peu plus qu'un jeu par mois. Avec 50 euros par mois, ça fait pas mal de services auxquels on peut s'abonner quand même. Donc, je pense que si ça fait, on va dire, les services, il va y en avoir à plus ou moins 10 euros. Si vous êtes abonné à 10 services et que vous avez accès à tous les jeux pas 10 services, mais 5 services, et que vous avez accès à tous les jeux, y compris les dernières nouveautés, de 5 gros éditeurs différents, ça fait quand même de la matière. Donc oui, ça a des avantages d'un certain côté, mais il y a aussi des côtés positifs. Donc à voir, on n'y est pas encore hein, à ce modèle.
On n'y est pas encore. Mais après, tu vois, je t'avoue, tout le discours genre « mais c'est n'importe quoi, jamais on ne fera ça, notre argent », bon, alors ça, c'est un discours que les joueurs nous seraient nés il y a 10 ans quand sont apparus les DLC. Voilà, enfin moi je me souviens très bien de tout ce qu'on lisait sur les forums en mode on n'est pas des pigeons, jamais on va payer pour des jeux incomplets, jamais je donnerai de l'argent en plus parce que les développeurs n'ont pas été foutus de terminer leur jeu. Bon, alors 10 ans plus tard,
comment dire
bah je crois que si finalement les gens se sont bien habitués à payer des choses en plus de leur jeu. Donc oui, je pense que d'ici 10 ans on rigolera aussi en disant haha, quand on disait qu'on était contre les services d'abonnement, dis donc. Donc oui, je pense que voilà.
Je suis sûr qu'il y a des gens aussi qui continueront à dire oui, évidemment, disons qu'on est tous d'accord, un jeu pas fini, c'est pas cool. Mais ça, ça n'a pas vraiment de rapport avec les questions de DLC. Les jeux pas finis, il y en a qui n'ont pas de DLC et qui sortent pas finis. Et puis, il y a des jeux très bien finis qui sont hyper satisfaisants, qui vous offrent la possibilité d'en avoir plus avec, en payant un petit peu plus pour le DLC. Donc, c'est vraiment deux questions totalement différentes. Et il y a des jeux avec DLC qui sont super bien. Il y a des jeux avec DLC qui sont pas bien. Il y a des jeux sans DLC qui sont pas bien du tout. Il y a des jeux free-to-play qui vous essore complètement. Enfin bref, on en reparlera peut-être à un moment. Sur le 3, bon, du coup, on a fait une petite parenthèse sur Stadia et les services de streaming, mais est-ce qu'il y a des grosses choses que tu attends, que ce soit pour la grosse annonce de Microsoft ou pour d'autres conférences, des prévisions que tu veux faire ?
Alors moi, j'attends beaucoup de Microsoft parce que je me dis, cette année, c'est l'année ou jamais pour présenter leur future console, sachant qu'ils ont un boulevard devant eux, ouais, vu que bah, Sony n'est pas là. Cette année, Sony n'est pas là, pour la bonne raison qu'ils n'ont rien à montrer. Donc, ils se font l'économie d'avoir un stand pour montrer des jeux qu'on connaît déjà par cœur, c'est-à-dire les quatre qui doivent sortir prochainement, dont The Last of Us 2, Death Stranding et je ne sais plus lesquels encore.
Le troisième que je connais, c'est Super Samurai au Japon. Ghost of Tsushima, voilà, merci. Le quatrième, je ne le vois pas, je crois.
Le quatrième, il est sorti, c'était Days Gone.
Oui, tout à fait.
Qui montré l'an passé. Mm-hmm. Donc voilà, bon, si c'est pour refaire de la redite et.
De toute façon, ils y sont pas. Donc,
bon, bah voilà, ils y vont pas, tant mieux. Vaut mieux ne pas y être que de faire une conférence qui va décevoir tout le monde parce qu'il n'y a rien de nouveau. Parce que la PlayStation 5 arrive, mais l'annonce, ce n'est pas pour maintenant. Donc, Microsoft, ils ont un boulevard, d'autant que Nintendo a dit qu'eux, ils ne montreraient pas la nouvelle version de la Switch durant l'E3. Après, connaissant Nintendo, ça veut dire, mais par contre, 3 jours après l'E3, on peut vous dire qu'on fera un Nintendo Direct, les connaissant, ou 3 jours avant, hein, ça aussi, ils en sont tout à fait capables. Donc, couloir pour Microsoft, est-ce qu'ils vont le saisir ? J'en sais rien, parce que là, pour le moment, je t'avoue, je suis en pleine prise de rendez-vous, notamment avec Microsoft. Et là, pour le moment, les retours que j'ai l'impression qu'on essaie plutôt de calmer mes espérances de l'autre côté du téléphone.
C'est vrai ?
Bah ouais, donc je ne sais pas. Bon, après, la France n'avait pas encore tous les détails hein, au moment où je les ai eus. Mais bon, ils ont envie de dire, bon, je ne sais pas. Donc bon, écoute, alors ça se trouve, ils font ça aussi pour me surprendre une fois sur place.
Je peux pas imaginer qu'ils ne présentent pas leur nouvelle console. Enfin, ils l'ont quasiment dit déjà. Peut-être que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont présenter effectivement la nouvelle console, mais qu'il n'y aura pas de contact avec le public ou avec les journalistes. Vraiment, c'est une présentation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la sortie de la console, que ça soit la nouvelle Xbox ou la nouvelle PlayStation, ça sera a priori fin d'année 2020. C'est ça. Donc, peut-être que là, ils vont faire une grande présentation générale, expliquer les grands concepts. Peut-être qu'on n'aura même pas de prix et que ça va être... voilà, on vous a montré. Maintenant, on retourne en mode un petit peu discret. Mais oui, comme tu le dis, ils ont un boulevard. Ils ont une occasion rêvée de, justement, faire rêver et s'accaparer toute la presse du monde. Je peux pas imaginer qu'ils ne présentent pas la nouvelle console. Enfin, moi, ça serait encore plus cataclysmique que... Ça serait une occasion tellement ratée que ça serait encore plus cataclysmique que, je sais pas, les nouvelles entre Sony et Microsoft, quoi.
Bah ouais, donc ça m'étonnerait aussi qu'il n'y ait rien. Mais après, il me semble que la Xbox One, ils avaient fonctionné aussi en deux fois. Ils avaient fait une première annonce pour dire... on développe une console et ensuite c'était durant l'E3 qu'ils l'avaient montré vraiment en détail, ils avaient montré son look, le prix, avec tout le scandale qui a suivi ensuite. Mmh. Et donc oui, peut-être qu'ils vont nous refaire ça, nous faire un teasing pour dire bon bah ça y est, on est en train de bosser dessus.
Ouais, moi je crois qu'ils vont vraiment présenter le truc, mais qu'on a encore un an et demi, donc peut-être qu'il n'y aura pas le prix par exemple, tu vois,
et non, ça,
pas les gros jeux vraiment annoncés ou... Donc bon, Ouais, ok, donc Microsoft.
Donc, en tout cas, j'espère que ça va arriver, parce que sinon, cette édition de l'E3 va quand même être super faiblarde. Hein. Parce que, bon, il n'y a pas Sony, Nintendo, ils sont en mode, oula, doucement, on va faire notre truc de notre côté. Après, alors moi, j'attends pas mal, mais ça, je pense qu'on va y revenir après, c'est la conférence de Square Enix, mais parce que je suis une Square Enix girl à fond, donc j'attends pas mal de cette conférence, parce que Square Enix va faire une vraie conférence. Et ça, jusque-là, c'était pas clair dans leur communication. On pensait que c'était, comme l'an passé, une vidéo streamée à la Nintendo Direct. Pas du tout, ça va être une vraie conférence. C'est bon, j'ai mon invitation. Mmh. Ça se passe dans un théâtre à Los Angeles. Donc voilà, ils mettent un petit peu les moyens pour leur conf. Et puis bah, sinon, il reste Bethesda. Je pense, enfin Bethesda aussi, je suis curieuse de voir ce qu'ils... Oula, ce qu'ils vont, il y a mon chat qui a failli tomber. Ce qu'ils vont dire, parce que l'an passé, quand même, leur conférence, bah, ils ont montré beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui se sont avérées décevantes. Je pense notamment à Fallout 76. Je pense à oui, vous inquiétez pas, on bosse bien sur Elder Scrolls 6, mais par contre, l'attendez pas avant plusieurs nombreuses années. Donc ouais, là, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir montrer cette année. Ça aussi, Bethesda, assez curieuse.
Ouais, ils ont et pas puis... dit qu'ils allaient pas parler de. C'est comment, c'est Starfield leur autre jeu. Je crois me souvenir qu'ils avaient dit on va parler ni de Elder Scrolls ni de Starfield ou le
ouais.
leur nouvelle licence.
Du coup, bah il reste quoi du ouais. Wolfenstein.
Doom Eternal Doom. Et Wolfenstein, comment il s'appelle le nouveau
Youngblood.
En coop, là, Youngblood, exactement.
Ouais. Ouais. Non, parce que bon, je pense que Fallout, ils vont le mettre au frigo pendant un petit moment. Et
bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Écoute, il y a moi, tu as parlé de la conférence Square Enix. Moi, ce que j'en attends, évidemment, les gens qui me connaissent sauront que je vais dire, j'en attends le l'insaisissable jeu Avengers dont
oui.
on entend parler depuis un moment.
Ah oui, tu attends là.
Oui, mais là c'est carrément quelque chose de vraiment, enfin, comment dire. Et en plus, ils ne peuvent pas ne pas profiter, même s'il sort que dans 3 ans. Là, il y a une telle fièvre sur Marvel qu'il faut qu'ils le présentent aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, cette année. On l'attendait l'année dernière, il n'était sans doute pas prêt. Oui, bon, donc, bref, le jeu Avengers chez Square Enix. Il y a d'ailleurs un jeu possiblement d'ici chez Rocksteady. Ils sont chez qui, Rocksteady ? Je ne sais même pas, c'est WB.
Ils sont chez Warner ?
Ouais, c'est Warner, c'est ça. Bon, peut-être qu'on le verrait dans une conférence de quelqu'un d'autre. Pour rappel, Rocksteady, c'est ceux qui ont fait Arkham, là, qui ont lancé la série Arkham, très très appréciée. Il y a Bethesda, comme tu l'as dit, on ne sait pas très bien. Ubisoft, qu'on n'oublie
oui,
pas,
Ubisoft.
Mais. Ubisoft, bon, Assassin's Creed, il ne va pas y en avoir l'année prochaine, donc voilà. Enfin, cette année, pardon. Il ne va pas y en avoir cette année, donc a priori, voilà. Sans doute Watch Dogs 3, qui est a priori leur grosse sortie cette année, mais à part ça, bon, bah, il y a encore des séries de Tom Clancy, ce genre de trucs.
Ouais, il y a Ghost Recon, la suite.
Oui, Breakpoint, je crois.
Breakpoint, ouais. Qu'ils ont déjà montré. C'est, en gros, là, Ubisoft a fait sa conférence investisseur pour notamment les projections de l'année prochaine et de l'année en cours. Et donc, ils ont dit, alors ça, c'est assez surprenant. Donc, il va y avoir cette année, donc, pour l'année qui se déroule de maintenant à mars prochain, il va y avoir 4 grosses sorties de jeux, 4 gros triple A, dont un seul qui sort en fin d'année, et les 3 autres sortiront entre janvier et mars. Mmh. Ce qui me paraît vraiment bizarre comme répartition, parce que ça fait quand même du coup un début d'année ultra surchargé. Et autant l'an passé, je pouvais comprendre qu'on décalait tout en début d'année parce qu'il y avait Red Dead, du coup tu mettais rien en face parce que ça servait à rien, mais là il n'y a pas de concurrence pareille, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, il va y avoir oui Watch Dogs, ça c'est sûr, Ghost Recon c'est sûr. Après, bah voilà, il reste les deux autres jeux mystères qui seront ni Assassin ni Skull and Bones, qui a encore été retardé l'année encore suivante.
Ouais.
Donc
le jeu de pirate de bataille navale, c'est pas non plus Splinter Cell d'après ce qu'on a entendu.
Ouais,
du coup,
alors on a bien beaucoup de rumeurs pourtant sur ce Splinter Cell, mais
du coup quoi, donc, nouvelle licence, c'est
Bah, je sais pas.
C'est
je
certainement pas, pas Beyond Good and Evil 2 qui
ah non, est, non, il est clairement pas prêt.
Voilà, donc oui, c'est gros mystère. Bon, peut-être agréablement surpris du côté de Ubisoft. Hein. Y a quoi d'autre ? Bon, Devolver, moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé, leur présentation, mais ils y seront encore. Y a le E3 VR Show, donc de la réalité virtuelle. Y a le PC Gaming Show qui, ces dernières années, a été en s'améliorant. Alors, au début, ils partaient tellement loin que forcément, c'est pas dur de faire mieux, mais il y aurait peut-être l'occasion de présenter des choses. Et puis après, il y a des toutes petites choses comme Limited Run, Kind of Funny, etc. Mais ça, ça va être des petits trucs. Pas d'activisme.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Activision, ils seront peut-être chez Microsoft ou ce genre de choses, Activision Blizzard. Et puis Nintendo qui va sans doute nous mettre une couche sur Pokémon Sword and Shield.
Ça, et Animal c'est... Crossing.
Et Animal Crossing, tout à fait.
Animal Crossing, ah, il faut qu'ils y aillent. Hein. Enfin, c'est bon, nous les fans, nous trépignons. Nous savons que ça sort ouais. cette année, donc là il faut le montrer à l'E3 et j'espère que leur stand sera dédié à Animal Crossing, ça sera trop bien.
Bon, ne serait-ce que pour Chloé, on espère qu'ils vont faire ça.
S'il vous plaît.
Et puis oui, donc à part ça, donc c'est pas un E3 qui est complètement mort, mais c'est clairement plus faible que les autres années a priori, hein, moi qu'on ait une surprise. Je pense que ça, c'est une fonction de la fin de la génération et de l'attente de la génération suivante qui sera rétrocompatible. Donc peut-être que les gens veulent présenter leur jeu avec la rétrocompatibilité et peut-être qu'ils vont aller dans les conférences Microsoft et à terme une présentation Sony. Mais oui, on sent que les grosses cartouches ont été tirées les deux dernières années pour 2017 et 2018 qui ont été exceptionnelles. Et là, on est dans un petit ventre mou peut-être, mais on verra. Peut-être qu'on sera surpris.
C'est ce qu'on appelle habituellement un E3 d'attente, un E3 de fin de génération où voilà, il se passe pas grand chose. Mais bon, ouais.
En fait,
je pense que les surprises vont venir des à côté. Parce que bon, alors moi j'espérais beaucoup de Google, bon finalement ce sera pas pour là. Je me dis Epic, ils vont peut-être faire des annonces assez sympas aussi. Après il y a Netflix qui va faire une conférence, enfin une conférence, on va dire plus une table ronde parce qu'en fait en marge de l'E3 il y a un événement qui s'appelle E3 Coliseum, donc c'est une série de petites conférences et de tables rondes qui a lieu au sein du Convention Center, et il y a Netflix qui y va pour faire une petite table ronde sur grosso modo adapter vos jeux en tant que contenu Netflix et inversement aussi adapter les contenus Netflix en jeux vidéo. Donc, on se dit, on va peut-être y avoir des annonces intéressantes sur...
peut-être des séries adaptées en jeu.
Donc, on se dit, on va peut-être y avoir des annonces plutôt sympas de ce côté-là. Donc, le problème, c'est que la date et l'heure n'est toujours pas parue de cette conférence. J'aimerais bien la voir parce que je suis en train de caler tous mes rendez-vous et j'aimerais y aller. Et tant que je ne sais pas quand est-ce que ça a lieu, je suis un peu dans le flou. Mais c'est une conférence que je vais aller suivre. Je pense qu'il y aura quelques petites annonces plutôt sympas. Mais tu vois, en fait, tout ça, c'est des annonces qui viennent d'outsiders. soit vraiment de nouveaux venus dans l'industrie, ou des gens qui étaient là, mais qui prennent une dimension nouvelle, donc typiquement Epic, ou des gens, des nouveaux comme Google ou comme Netflix. Et en fait, je me demande si c'est pas de eux que vont venir les annonces les plus intéressantes de l'E3 et pas du tout de nos, de notre trio habituel.
Exception faite de Microsoft, puisqu'eux, ils vont présenter leur nouvelle console service. Oui, non, mais si. Non, mais écoute, moi, tu me fais bouillir le sang, quoi. C'est pas possible. Si Microsoft, je sais pas, il faut que je dise un truc. Si Microsoft ne présente pas leur nouvelle console, je me rase la tête en protestation face à la bêtise de cette décision, quoi. C'est pas possible d'être suffisamment stupide pour rater l'opportunité de la présenter à ce moment. En même temps, je dis ça, c'est pas du tout impossible. Ils pourraient faire une conférence à n'importe quel moment, tout le monde regarderait aussi. Mais je sais pas. Là, ils ont vraiment le boulevard. Donc, j'ai pas dit que je me raserais la tête. Hein. J'ai dit que peut-être il faudrait. Je crois que je l'avais déjà dit il y a quelques temps pour un autre truc et que finalement je l'avais pas fait. Mais je me souviens plus ce que c'était, donc ça compte pas. Bref. Voilà pour l'E3, on attend ça, c'est juste dans 3 semaines, donc ça arrive très bientôt. J'imagine d'ailleurs qu'il n'y aura pas de prochain épisode dans 2 semaines, parce qu'on sera à la veille de l'E3, ça ne sert pas forcément à grand-chose, donc on attendra que l'E3 ait eu lieu. Passons au sujet suivant un petit peu plus rapidement. En quelques minutes, à quoi on a joué ? Moi, je pensais jouer à Rage 2 et face aux réponses un petit peu tièdes, je me suis dit, écoutez, pour les jeux tièdes, j'ai déjà donné pour Days Gone. Rage 2, j'attendrai qu'il soit en solde deep discount. Donc, j'ai finalement pas acheté Rage 2. À quoi j'ai joué ? J'ai joué à Assassin's Creed Odyssey, dans lequel j'ai replongé, je crois que j'en avais déjà parlé, mais complètement. J'ai fini la quête principale, qui est vraiment... Enfin, mais quel jeu, quoi ! Quel jeu incroyable ! Ce que je disais sur Twitter, c'est que on a eu une année tellement folle l'année dernière, avec des jeux exceptionnel, que du coup, Assassin's Creed, dont on a quand même dit des bonnes choses, est presque passé, a presque été oublié. Et franchement, c'est un accomplissement fou, ce jeu. Je suis émerveillé à chaque fois que je le relance et je vais continuer à jouer parce que là, il y a genre des trucs à faire au niveau 50, puis niveau 40. Donc, je vais aller explorer la Grèce, faire plein de trucs et puis essayer de finir les autres quêtes principales. Vraiment, je ne peux pas en dire assez de bien de ce jeu. Il sera possiblement, si j'ai le droit de parler d'un jeu de 2018 pour 2019, possiblement dans mes jeux de l'année en 2019, quoi, tellement je l'aime. J'ai profité des soldes Epic pour acheter World War Z, dont on m'avait dit du bien. Alors, j'ai joué un tout petit peu, j'ai fait 2-3 missions. C'est un Left 4 Dead like, en quelque sorte. Mais de ce que j'ai vu de mes quelques missions, j'ai vraiment pas beaucoup joué. Je trouve qu'il y a la forme, mais que le fond manque de ce génie de design qui faisait de Left 4 Dead un truc hyper addictif et motivant. Là, c'est beaucoup, beaucoup moins prenant. Alors, il y a des hordes de zombies, ils font des pyramides pour escalader des trucs et pour t'arriver sur la gueule, c'est assez impressionnant. Mais, je ne sais pas, le rythme, le design du truc... et pas aussi haletant qu'il pouvait l'être dans Left 4 Dead. Alors peut-être que c'est différent dans les niveaux d'après, mais là j'ai été un petit peu déçu par ces quelques missions que j'ai faites. Slay the Spire, dont tout le monde me parle depuis l'année dernière, qui est un jeu dont je n'ai entendu que du bien, je l'avais acheté en fait et je n'avais pas pris le temps d'y jouer. Et donc là, comme je le disais, au lieu de jouer à Rage 2, je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans mon backlog. J'ai fait quelques parties de Slay the Spire, j'ai fait un run. Et c'est un jeu en fait où on fait des combats qui sont menés par un jeu de cartes, un petit peu comme Hearthstone ou Magic. Et alors c'est très bien, mais on retrouve dans le moment-to-moment gameplay, dans le gameplay effectif, exactement les mécaniques qu'on a dans un jeu comme Hearthstone. Et j'ai tellement joué à Hearthstone pendant 2 ou 3 ans, je l'ai tellement rincé, que là je me disais, ok, j'ai compris quoi. Et j'ai pas eu l'envie de continuer à jouer parce que c'est exactement ce type de mécanique. Alors, il y a un enrobage qui est différent, la manière dont on progresse, les différentes étapes qu'on a, la manière dont on construit et on gère son deck pour chaque run. C'est un petit peu un Hearthstone en roguelike ou en roguelite, plus tôt. Mais ça m'a pas... J'ai déjà vu, quoi, en quelque sorte. Ceci dit, le jeu est très bien. Je comprends qu'il y ait plein de gens qui l'aiment. Dernier jeu auquel, sur lequel j'ai passé un petit peu de temps encore, c'est Hades, le fameux jeu qui est en Early Access chez, sur l'Epic Game Store. Pareil, non, pas pareil, pas comme Slay the Spire, mais... Super, super bon jeu, Hades. J'y prends beaucoup de plaisir. Et si j'avais plus de temps, j'y jouerais plus. Vraiment, j'avais fait cette blague. Quelqu'un avait mentionné que c'est un petit peu Dead Cells, mais en vue isométrique. Il y a vraiment beaucoup de ça. Et c'est un kiff de jeu avec cet élément roguelite. D'ailleurs, je précise, je voulais en parler, mais la distinction entre roguelike et roguelite qui m'a posé beaucoup de problèmes pendant très longtemps. En fait, c'est très simple. Un roguelike, c'est comme rogue à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne garde rien quand on meurt, donc on ne s'améliore que en maîtrisant le jeu. Il faut faire plein de runs et comprendre le jeu pour s'améliorer. Les rogues light, donc légers, on garde des choses quand on meurt et du coup on peut progresser naturellement à force de jouer. On devient de plus en plus fort. Moi, je suis pas assez lit pour jouer et pour aimer les rogues like, donc je préfère largement les rogues light. Et Hades est pile dans cette catégorie, un petit peu comme Dead Cells. Et je suis hyper content de l'avoir acheté en Early Access. Donc voilà, si vous cherchez un Dead Cells, qui arrive d'ailleurs sur mobile, donc vous pourrez y jouer aussi sur mobile, encore que les contrôles précis, je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien sur mobile, mais à voir. Si vous voulez encore du Dead Cells alors que vous l'avez rincé, bon, vous pouvez aller voir du côté de Hades. Et voilà pour les jeux auxquels j'ai joué. Toi, Chloé, tu me disais que tu as joué un petit peu à A Plague Tale, oui. Un jeu français un petit peu particulier d'ailleurs.
Oui, alors on parlait de hordes de zombies. Bah là, c'est des A Plague Tale, c'est plutôt des hordes de rats. Parce que alors c'est un jeu français qui a été développé par Asobo à Bordeaux, qui se passe durant la grande peste, durant la peste noire au XIVe siècle. Donc alors moi c'est un truc que j'apprécie qu'un studio français utilise l'histoire française et européenne pour un de ses jeux, parce que malheureusement je trouve que bah maintenant les univers de jeux vidéo c'est soit univers américain, univers japonais, univers imaginaire, mais on va dire à l'exception de The Witcher. Il y a très très peu d'exploitation de, en fait, des univers européens.
C'est vrai.
Enfin, des vrais univers européens et pas d'une Europe fantasmée, enfin, d'heroic fantasy. Donc, ça m'a fait plaisir parce que quand tu te balades dans le jeu, bon, ça se passe en Aquitaine parce que wink wink, ils viennent de Bordeaux. donc, voilà, ouais, tu reconnais, enfin, quand tu te balades dans les villages, tu reconnais la patte, en fait, des villages médiévaux du sud-ouest. Donc, ça, c'est quelque chose que j'appréciais. Donc, A Plague Tale, donc, qu'est-ce que ça raconte
que...
très rapidement.
Pardon, je te pose la question, pour la précision. Tu veux dire, on sent que l'environnement est de l'Aquitaine, on le sent dans les paysages, dans l'architecture, tout ça, on le sent vraiment, quoi, c'est ce que tu veux dire.
Ouais,
c'est
différent on sent vraiment, enfin, tu sens que t'es en France. Donc, c'est en tant que Français, je trouve ça bien. Ouais, en tant qu'étranger, j'imagine que c'est encore mieux. Voilà, d'avoir un jeu qui change un peu, en fait, au niveau de son design, au niveau de la direction artistique, voilà, qui change un peu de votre ville random du Moyen-Âge, votre ville random américaine. Enfin voilà, ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et donc Plague Tale aussi intéressant dans son gameplay, parce que donc c'est un jeu donc qui se passe durant la peste noire. Vous dirigez une jeune fille avec son petit frère, donc petit frère totalement vulnérable. Qui peut rien faire et qu'il faut protéger. Et cette jeune fille, grosso modo, bon, elle sait faire que deux petites choses, c'est d'utiliser sa fronde, donc pour pouvoir faire tomber des objets et ce genre de choses. En fait, elle a des mouvements quand même assez limités et il faut réussir à se faire un chemin entre donc soit les soldats qui essayent de vous faire la peau, soit les rats qui veulent aussi vous faire la peau, mais au sens vraiment propre cette fois-ci. Et en fait, c'est un jeu. Je crois que j'ai rarement vu un jeu aussi gore graphiquement parce que c'est en fait c'est extrêmement réaliste. Toi, contrairement à un Resident Evil qui est gore, mais je veux dire c'est un gore de série Z. Donc il y a du sang partout, mais quelque part tu te dis ouais bon c'est pour rigoler. Alors que là, on voit quand même dans les premières minutes du jeu des corps calcinés parce qu'on les a brûlés en place publique, des gens qui sont pendus. Des gens qui ont été dévorés par les rats, donc des fois à moitié, donc t'as le corps intact, puis t'as les jambes, c'est juste des os. Enfin, franchement, c'est c'est dur. Et en fait, et dès le début du jeu, donc j'ai pas spoilé, mais en fait, il y a une scène que j'ai trouvée extrêmement choquante parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans un jeu vidéo et dans le divertissement en général. Et tu dis, dès le début, en fait, ça pose le ton. Tu dis, OK, on n'est pas là pour rigoler. En fait, ça va être quand même un jeu très, très réaliste et sans trop de concessions dans la représentation de sa violence.
C'est difficile à jouer si on est un peu... on sait que le monde est un peu sombre ces temps-ci. Est-ce que du coup, il faut être bien accroché, j'ai l'impression, c'est ce que tu dis.
Il faut être bien accroché. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va dire, c'est que la caméra, contrairement à d'autres jeux, elle ne va pas venir se braquer sur les cadavres en disant « Ah, t'as bien vu qu'il a été bouffé par les rats ?» En fait, la caméra est assez libre. Donc, c'est à toi aussi. Tu peux aussi ne pas regarder. Tu peux aussi tourner la caméra pour dire « Ok, bon, j'ai compris qu'il y avait un truc pas cool par terre, mais je ne vais pas regarder. » Ça, c'est aussi un peu ta décision. Tu peux aussi zoomer, regarder si tu as envie de voir un peu mieux. Mais il y a une certaine, en fait, une sorte, on va dire, de pudeur dans la direction de la caméra. C'est suggéré, mais ouais, j'ai trouvé ce parti pris intéressant. Mais ce qui fait que Plague Tale n'est... En fait, c'est un jeu qui se veut grand public parce qu'il est très accessible. Franchement, c'est simple. C'est vraiment simple à jouer. C'est pas très compliqué. Mais qui en même temps est très 18+. Enfin, tu vas pas mettre ce jeu-là dans les mains de ton petit cousin qui est en cinquième et qui est en train de, je sais pas, dans ses cours d'histoire, ils sont en train de parler du Moyen-Âge. Tu vas pas lui confier ce jeu-là, quoi, pour dire tiens, ça va approfondir tes connaissances, parce que c'est quand même un peu un petit peu gore. Mais c'est pour le public adulte, c'est suffisamment simple, je trouve, à prendre en main pour être joué par des gens qui sont pas des hardcore gamers, qui jouent juste un petit peu et qui peuvent tout à fait prendre en main ce jeu.
Vas-y.
Non, je trouve que c'est un jeu... Alors ça, c'est plutôt dans les points, on va dire, peut-être négatifs. C'est un jeu qui a un feeling, en fait, très PlayStation 2, PlayStation 3. Tu vois, l'équipe qui est derrière est toute petite, je crois qu'ils sont 45. Tu le sens, toi, les animations, c'est pas ça. Quand les personnages parlent, il n'y a pas d'animation faciale, il y a juste les lèvres qui bougent. Il y a des choses un peu sèches et c'est très, voilà, une pièce, une énigme. Et tu passes à la pièce suivante, c'est on reset. Enfin, les gens derrière toi, si tu t'es, c'est un truc de, comment dire, où il faut échapper à des gardes. Bon, bah, tu passes à la pièce suivante. Magiquement, les gardes qui sont dans la pièce derrière, ils ne vont pas venir te chercher dans la pièce suivante. Donc ça, en fait, c'est des mécaniques très anciennes, d'il y a 10 ans à peu près de jeu, mais ça passe.
Bah justement, c'était la question que j'allais te poser. C'est quoi le gameplay? C'est des énigmes? C'est de l'action? C'est quoi?
Il y a assez peu d'action au final. C'est plus des énigmes. Donc, en gros, t'as deux... là où j'en suis, tu as deux grands types d'énigmes. C'est soit tu dois... infiltration. Donc, tu dois passer dans des zones qui sont infestées de gardes et il ne faut pas qu'ils te voient. Donc là, tu peux utiliser des choses assez simples, genre te cacher dans l'herbe, balancer des objets pour distraire les gardes. Enfin, genre Metal Gear 1.0. Et après, tu as une autre phase de gameplay qui est avec les rats. Les rats, en fait, détestent la lumière. Et donc, il va falloir jouer avec les sources de lumière pour pouvoir te déplacer. Donc, il y a plein de mini-puzzles dans chaque pièce. Il faut savoir quels sont les objets à déplacer, quels sont les objets à faire tomber pour pouvoir te déplacer de manière sûre. Parce que même s'il reste un peu de rats, bon, ben voilà, ils vont te dévorer dans la seconde.
D'accord.
Donc, okay. C'est un gameplay plutôt simple, mais au bénéfice d'une narration que je trouve vraiment très, très forte.
Bon, bah écoute, oui, ça a l'air d'être un jeu qui intéressera c'est pas un jeu qu'on recommanderait peut-être à tout le monde, j'ai l'impression, mais qui intéressera les gens qui pourraient être intéressés, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça.
En gros, c'est pas, si je devais résumer simplement, c'est pas un jeu à gameplay, mais c'est un jeu à histoire. Donc si vous êtes le type de joueur qui aime plus les histoires, les atmosphères, les ambiances, etc., c'est un excellent jeu.
Ok. Bon, bah merci pour ce petit résumé. Je reviens vers les news que nous allons évoquer un petit peu rapidement. Alors, je vais faire quelques news à la suite et puis tu pourras me dire celles qui t'intriguent, dont tu veux dire quelque chose en plus. Alors, d'abord, le State of Play, le fameux PlayStation Direct, a montré la nouvelle version de Final Fantasy VII Remake il y a 2 semaines environ. On aura plus d'infos. Oui, ça, on n'en a pas parlé, mais on aura plus d'infos à l'E3. c'est bon, PlayStation, pardon, Final Fantasy VII, vraiment remake à la sauce Resident Evil 2, pourquoi pas. Il y a les annonces sur WoW Classic, donc la version classique de World of Warcraft qui sera disponible le 27 août, dont la bêta a commencé. Moi, une chose que je veux mentionner qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il y a de nombreux joueurs qui ont testé la bêta et qui ont fait remonter en tant que bug des choses qui ne sont pas des bugs, à tel point que Blizzard a dû faire une liste des choses qui ne sont pas des bugs pour que les gens continuent arrêtent d'en parler. Et certaines choses, c'est très très drôle, c'est des choses du genre on ne regagne pas notre vie assez vite après les combats, les ennemis nous approchent de beaucoup trop loin, enfin tous les trucs qui faisaient World of Warcraft classique tel qu'il était à l'époque et que les gens aujourd'hui sont, ont tellement été habitués à d'autres types d'interactions qu'ils ne sont plus comment dire, qu'ils pensent que c'est des bugs tellement c'est inimaginable. Alors évidemment il y a plein de gens qui apprécient aussi classique pour ce qu'il est, mais c'est marrant de voir ces réactions quand même, moi ça m'a fait rire. Microsoft a annoncé un jeu Minecraft en réalité augmentée sur vos téléphones. Le principe est qu'on va pouvoir placer dans le monde réel des constructions qu'on a fait dans Minecraft, ou en tout cas dans une version éditeur du jeu, et il va falloir sortir dans le monde pour collecter des ressources pour construire des choses. Donc voilà, sur ces trois news, si tu as quelque chose que tu veux mentionner spécifiquement.
Ah bah, Final Fantasy VII.
Évidemment.
Évidemment. Non, bah écoute, je suis
donc t'es cliente,
extrêmement
toi
heureuse. Ah bah oui, je suis cliente. Bah, je... Final Fantasy VII et moi, c'est une histoire un peu spéciale. ça a été mon premier RPG, donc forcément, j'attends ce remake avec impatience et appréhension. Un peu comme Game of Thrones. voilà, tu te dis, est-ce que tes espoirs ne vont pas être douchés? Mais en tout cas, ça faisait plaisir de voir cette bande-annonce qui surgit un peu de nulle part, parce que je pensais vraiment pas que ça surgirait lors de State of Play. En plus, en pleine nuit pour nous. Enfin, je crois que c'est tombé à minuit, minuit et demi. Parce que ça faisait quand même 2, 3 ans, 4 ans.
Ou même plus, ça faisait 4 ans, oui.
4 ans, ouais, qu'on n'avait pas eu de nouvelles de ce jeu, dont on savait que le développement avait été repris un peu de zéro par Square Enix en interne, il y a quelques temps. Donc tu dis, ok, bon, bah, c'est que ça se passe bien. Et donc oui, on en verra beaucoup plus à l'E3. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'attendais beaucoup de la conférence Square Enix, parce qu'on va enfin voir Final Fantasy VII Remake, et de ce qu'ils ont l'air de sous-entendre, on aura les dates de sortie, enfin on aura la totale, on aura tous les détails sur la sortie du jeu. Donc je suis extrêmement impatiente, parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là en tout cas, le peu qu'on a vu dans cette bande-annonce, moi je trouve ça plutôt alléchant. Donc,
ouais. Comme j'en parlais il y a quelques temps, moi je suis pas hyper nostalgique et j'ai tendance à penser que les choses dont on se souvient, on a tendance à les enjoliver parce qu'on s'en souvient avec l'émotion de l'époque. Et un jeu comme Final, enfin tous les rétros, les jeux rétro, tout ça, c'est pas vraiment mon truc. Pareil d'ailleurs avec WoW Classic. Pour lequel m'asseoir et attendre 3 minutes entre chaque combat pour regagner ma mana, c'est pas vraiment mon truc. Mais là, ce jeu-là, il a quand même, parce qu'il est refait, il est vraiment super beau. D'ailleurs, c'est marrant de voir la comparaison entre les images de 2019 et les images de 2015. On se dit, ah bah oui, bah c'est à peu près pareil. Non. Là encore, les images de 2015 sont bien plus moches. Mais là, moi aussi, enfin comme tout gamer qui était vivant à l'époque, Final Fantasy VII a été un moment important dans ma vie de gamer. Et je crois que s'il est suffisamment refait, même si je ne vais pas le refinir, parce que c'est des jeux qui durent 60 heures, 110 heures, enfin, j'ai la place que pour Assassin's Creed Odyssey dans ma vie en ce moment, pour ce genre de durée, mais... je crois que l'émotion de l'époque, et peut-être revoir un petit peu les personnages et l'univers et tout ça, pourrait me convaincre, parce que le remake a l'air d'être, comme je disais, en mode Resident Evil 2, a l'air de valoir le coup, quoi. Bon, maintenant, à voir quand on aura les mains dessus, enfin, quand Chloé aura mis les mains dessus dans son rendez-vous avec Square Enix, elle pourra nous dire si c'est convaincant ou pas, ce remake.
Bah ouais, bah, j'espère, hein, j'espère qu'il y aura des rendez-vous de ce type-là, mais c'est vrai que si c'est un remake à la Resident Evil 2, moi je signe des deux mains, mais tout de suite, hein, parce que...
tu deviens ambidextre pour pouvoir signer plus vite des deux mains.
Ouais, non, mais c'était tellement bien Resident Evil 2, enfin, pour moi c'est ça un bon remake, c'est pas un copier-coller. c'est une réinterprétation, mais qui reste fidèle au jeu d'origine, mais qui est un peu le sublime. Tu vois, comme on dit, j'ai sublimé la tarte tatin. Et bah ouais, tu sublimes Final Fantasy VII avec les ingrédients d'aujourd'hui, tu le réinventes un petit peu et tu peux en faire quelque chose de sublime. Donc, je veux y croire.
Oui, je veux y croire aussi, et c'est rare que je veuille croire à ce genre de truc. Tu vois, à l'opposé du spectre, il y a Shenmue 3, auquel... ouais, voilà, je ne crois pas non plus, même si je voudrais. Puis au milieu, il y a peut-être, comment dire, Bloodstained, le Igavania, là, où je me dis, j'aimerais y croire, mais je crois que j'y crois pas trop quand même, mais je vais quand même essayer, on verra. Bon, quoi d'autre ? Il y a eu une interview intéressante ou un rendez-vous intéressant que les gérants de CD Projekt ont donné à Jason Schreier. Alors, un petit peu de contexte. Jason Schreier, comme vous le savez, c'est le journaliste de Kotaku qui fait un travail incroyable sur un travail de journalisme d'investigation incroyable dans le domaine du jeu vidéo. Et il parle beaucoup des problèmes qu'on a dans les studios, des problèmes de crunch, de travail... parfois inhumain qui est demandé aux développeurs et aux artistes pour finir les jeux. Alors, c'est une pratique qu'on n'a pas besoin de détailler plus que ça. On la connaît depuis longtemps. CD Projekt a donné rendez-vous à Jason Schreier pour un petit peu anticiper les réactions qu'on pourrait avoir, je crois, ça c'est mon interprétation, sur les annonces qui vont arriver pour Cyberpunk 2077, dont d'ailleurs on n'a pas parlé, mais qui sera sans doute l'un des jeux pour lesquels on aura des détails, peut-être même une date de sortie à cette E3. J'imagine.
Oui, il y a des présentations qui sont prévues.
Bah voilà, je le verrai bien dans la conférence Microsoft, justement, en mode voilà à quoi il ressemblera sur la prochaine Xbox. Et donc... ils lui ont en fait parlé du crunch et ils lui ont dit à peu de choses près, on est conscient des problèmes et on essaye d'améliorer les choses. Oui, il y aura toujours du crunch, mais on veut, en plus du fait de travailler sur ces problèmes dans notre société, et on sait qu'ils sont nombreux, on veut que cet article que vous allez publier donne de la puissance à nos employés pour qu'ils puissent dire à leur manager, même dans notre propre société, même si on l'a dit nous-mêmes à nos employés, pour qu'ils puissent dire bah non, regarde, même les boss, ils ont dit qu'on n'est pas obligé de faire du crunch. On peut bosser plus si on veut, mais on n'est pas obligé. Et ils essayent vraiment de résoudre, c'est une sorte de quadrature du cercle, de laisser aux gens la possibilité de travailler plus pour finir un jeu, mais en leur laissant aussi la possibilité de rentrer chez eux, s'occuper des enfants, par exemple, s'ils en ont besoin, ou juste se reposer. Alors, je crois que le débat pourrait être sans enfin sur ce sujet, est-ce que c'est sincère, est-ce que ça peut marcher, etc., etc. Moi, ce qui me frappe particulièrement dans cette initiative, c'est que à force de voir toutes ces conversations qui sont menées dans la presse, vraiment, c'est le pouvoir de la presse qu'on voit, je crois, mené de front par Schreier, et d'autres en ont fait les échos, notamment Le Monde avec... le nom
Quantic Dream.
Merci, Quantic Dream l'année dernière, Le Monde et d'autres. Le sujet est devenu une préoccupation centrale dans l'industrie, à juste titre, je crois. Et donc, on sent les sociétés qui réagissent, je crois vraiment de l'intérieur, même si pour vraiment que ça change, il faudrait, en particulier aux États-Unis, comme je le dis à chaque fois, qu'il y a un mouvement de syndicalisation qui, encore une fois, ne veut pas forcément dire exactement la même chose aux États-Unis et en France ou en Europe, mais ça, c'est un autre débat. Mais il faudrait qu'il y ait un mouvement de syndicalisation, de mise en commun des intérêts et des forces des employés. Mais au-delà de ça, on voit que les sociétés commencent à s'en préoccuper au niveau de la communication, mais je crois aussi au niveau de l'organisation et de la gestion interne. Donc, c'est la presse qui pousse l'industrie dans le bon sens, je crois. Mais ouais, dis-moi.
Après, tu vois, tu sens beaucoup de ce qu'on appelle des PR moves. Oui. Là, c'est précisément ce qu'a fait CD Projekt et ce que font d'autres. Tu vois, ce qu'a fait aussi Rockstar quand ils ont été attaqués dans tous les... Enfin, à la sortie de Red Dead 2, comme l'a fait Riot Games aussi. Tu vois, bon, publiquement, ils te disent « Mais si, mais nous prenons la santé de nos salariés très à cœur. Ils n'ont absolument pas travaillé autant. C'est totalement faux. » Bon, ça, c'est le côté communication. Après, en interne, est-ce que ça change vraiment des choses ? Je crois que c'était chez... Ah, je ne sais plus quel studio. C'est bon, je me souviens plus quel studio.
Il y avait Respawn. C'était Respawn qui avait dit nous, on va pas faire des updates en permanence parce que c'est pas tenable. Il y a Machine Games d'ailleurs qui a fait une déclaration sur le même sujet.
Ça me revient. Epic Games, parce qu'il y a une enquête qui est sortie aussi sur les conditions de travail chez eux, où ils disaient que il y avait placardé de partout, genre vous n'avez pas à faire des heures supplémentaires, etc., etc. Ils disent bon, bah en fait, c'est au niveau du middle management, au niveau des cadres intermédiaires, que le discours ne passait pas. Et en fait, t'as beau avoir ton N+14 qui te dit t'as pas à faire des heures sup, si ton chef direct il te dit si tu vas les faire, tu les fais quoi, parce que c'est juste ton chef direct qui a un pouvoir direct sur toi et qui peut, ce qui était très bien expliqué dans cette enquête, qui peut ensuite t'avoir dans le pif, qui peut t'empêcher de progresser, c'est au niveau des cadres intermédiaires que semble aussi se poser pas mal de problèmes.
Ah bah c'est sûr, et les cadres intermédiaires, ils sont les derniers tenants d'une tradition dans l'industrie qui vient de toute l'industrie, y compris des dirigeants. Moi, je crois aussi, pour si je me fais un petit peu l'avocat du diable, dans ce cas, le diable, c'est CD Projekt, sur lesquels j'ai pas dit que des bonnes choses de leur histoire, mais je crois que ce genre de navire amiral, et là je parle de l'industrie dans son ensemble, c'est pas facile à tourner et ça va prendre quelques années. Et oui, la balle en argent pour vaincre le monstre du crunch, ça serait une syndicalisation généralisée, mais ça non plus, ça se fait pas en une journée. Non. Pour moi, il y a quand même dans cette idée, surtout de la manière dont ils disent on fait cet article pour que... Ça peut paraître bizarre qu'ils disent on fait cet article pour que nos employés puissent le montrer justement à leur manager, ils leur mettent dans le visage et ils leur disent regardez, nos boss ils disent que... Et il y a un petit peu de... Je veux dire, tu peux pas dire ça et après, si quelqu'un rappelle Jason Schreier de chez CD Projekt comme ils l'ont fait par le passé suite à la grande enquête qu'il avait fait sur BioWare d'ailleurs, et ils les rappellent et ils disent moi j'ai montré ton article et on m'a rionné, tu vois, ça met... un petit peu de accountability, je trouve plus le mot en français.
Dans l'article de Jason, il terminait en disant qu'il y avait déjà des gens de chez CD Projekt qui lui disaient que c'était reparti comme à la Witcher 3, quoi.
Ça, c'était suite à l'article de Anthem qu'il a publié il y a 2 mois. On en avait parlé ici et je lui en avais parlé d'ailleurs dans Pixel. Je l'avais reçu à propos d'autre chose. Je crois que je lui en avais parlé, oui. C'était à la suite de ça, et je crois que c'est justement à la suite de tous ces articles, il y en a eu d'autres, celui de, je crois que c'était US Gamer dont tu parlais, il y en a eu d'autres, que CD Projekt et d'autres, je suis sûr, réagissent justement. Et ça, cette initiative qu'ils ont pris là, c'est évidemment une initiative de com, parce qu'ils ne veulent pas que le sujet, parce que là, ils le voient venir, quand Cyberpunk 2077 va sortir, soit on va dire « Oh, le jeu, il est incroyable et c'est super cool », soit le sujet dont tout le monde va parler, ça va être l'article de Schreier qui va dire « Ok, il est super votre jeu, sauf que voilà ce qui s'est passé pour tous les employés de CD Projekt, comme sur Witcher 3 ». Et donc, ça a un effet qui... En plus, je crois que c'est très facile de voir l'attitude de ces entités un petit peu impersonnelles comme intrinsèquement maléfiques. Tu vois, c'est genre, ils pressent les employés, machin. Oui, bien sûr, il y a un peu de ça. Mais je crois aussi que, quand je parle de navire amiral, si tu veux changer les choses, c'est hyper dur de changer la culture d'une entreprise. Et... trouver en plus de ça le bon équilibre entre... Parce que en ce moment, la tendance est à... Le crunch, c'est super mal. Et encore une fois, je suis complètement d'accord. Mais je crois qu'il y a aussi des gens qui veulent légitimement se dire ils sont à un point de leur carrière ou machin, ou ils ont juste envie de bosser comme des fous sur ce jeu pour le rendre aussi bon qu'ils puissent. Ça existe, il y en a des gens comme ça. Et l'industrie, je crois, a besoin de ces gens aussi. Et donc, c'est difficile de trouver l'équilibre entre leur laisser cette possibilité et faire en sorte que ceux qui ne le font pas ne soient pas victimes d'une sorte d'ostracisme ou de machin. Et c'est pas facile. Et...
Bah déjà, ce qui sera un bon point, c'est que les gens qui fassent leurs heures supplémentaires soient rémunérés pour. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. En fait, quand on parle du crunch, c'est qu'un des nœuds du problème, c'est que, notamment aux États-Unis, ces heures supplémentaires ne sont pas rémunérées.
Ça dépend des cas, mais généralement, oui.
Ça dépend des cas, mais très souvent, elles ne sont pas rémunérées. Et du coup, tu te dis, ok, bon, tu peux faire 80 heures parce que dans la semaine, parce que il y a un besoin, parce que pour des raisons X ou Y, mais que ouais, ce soit institutionnalisé et qu'en plus t'es pas rémunéré pour cet effort supplémentaire qu'on te demande. Ça aussi, c'est un des gros nœuds du souci du crunch, notamment aux États-Unis.
C'est sûr, et puis il y a cette sorte de loyauté qu'on peut avoir envers une entreprise et un projet dans lesquels on donne tout, et puis on ne se rend pas forcément compte dans les premières années, peut-être, certains oui, mais certains non, qu'au final, bah, la société, c'est pas qu'elle s'en fout de toi, mais elle ne va pas se sacrifier non plus pour toi de la même manière dont toi, tu te sacrifies pour elle. Donc, bref, c'est un sujet assez vaste, mais moi, ce que je voulais noter avec cette interview en particulier, c'est que je trouve que ça va dans le bon sens qu'une grande société comme CD Projekt soit contrainte de prendre l'initiative, d'une part, d'essayer de faire ces changements, si on les croit. Et encore une fois, il y a des gens qui appellent les journalistes pour leur dire « c'est comme ci ou c'est comme ça », donc on le sait au final. Donc c'est une bonne chose qu'ils prennent l'initiative, et surtout qu'ils placent cette préoccupation au centre de leur, de leur préoccupation, justement. Ça veut dire que ça fonctionne, cette pression que met la presse sur l'industrie fonctionne. La presse et l'opinion générale fonctionnent. Donc moi, je trouve que ça va dans le bon sens, même si on n'est pas encore arrivé.
On n'est pas encore rendu, mais c'est vrai que oui, la presse a mis un peu le nez dans le caca de ce type de studio. Et bah oui, c'est très bien. Enfin, quand tu vois, le meilleur exemple pour ça, c'était Rockstar avec la sortie de Red Dead 2. Enfin, tu vois, même si le jeu a été acclamé, la sortie aussi a été teintée de tous ces... De tous ces articles sur les 200 heures par semaine ou je sais plus quoi.
C'est 100 heures par semaine.
C'est 100 heures par semaine, voilà. Où tout le monde, beaucoup, on ne parlait que de ça aussi.
C'est exactement ce que veut éviter CD Projekt avec Cyberpunk 2077. Ça, j'en suis convaincu.
Ça n'a pas empêché Red Dead 2 de se vendre comme des petits pains. On en a 25 millions d'exemplaires, je crois. Mais bon, ça a quand même terni l'image de la boîte.
Oui, et GTA en est à 110 millions. Oui. Et je crois que c'est Oscar Le Maire, ami de l'émission, qui disait sur Twitter, je crois que c'était lui, mais qui achète encore GTA 5, quoi ? C'est invraisemblable. c'est vraiment, mais 110 millions, c'est... Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'ont acheté sur plusieurs plateformes, mais quand même.
Surtout, ouais, tu dis, ouais, la base installée, enfin, maintenant, c'est bon, c'est limite un GTA 5 par console, quoi.
C'est ça, ouais. Il y a, dans les sujets controversés, je veux aussi évoquer l'article, qui avait écrit cet article sur Fortnite, c'était Polygon, voilà, encore un beau travail d'investigation, sur la manière dont les enfants sont stigmatisés et harcelés, enfin bouliés, c'est un terme qui a une connotation un peu différente en français et en anglais, mais ils se font bullying, dans Fortnite, quand ils n'ont, pardon, moqué, oui, c'est un peu plus fort que moqué même, quand ils n'ont pas acheté ou gagné de skins différentes et quand ils utilisent le skin de défaut.
De base,
ouais. C'est vraiment... Et il y a même certains profs ou certains adultes qui mentionnent le fait qu'ils ont entendu des gens appeler d'autres. Ah ouais, lui, c'est un default, quoi. C'est une insulte. Ah ouais, espèce de default parce que t'as pas de quoi t'acheter un skin différent. Il y a des légendes urbaines qui font que certains enfants pensent qu'on est moins bon au jeu. Enfin, je veux dire, le jeu est moins facile quand on a la skin default, donc il veut pas jouer avec les gens qui ont que des skins default. Enfin, c'est assez terrible. Alors, les enfants n'ont pas attendu l'invention de Fortnite et des micro-paiements pour être cruels et se moquer de leurs camarades de jeu. Évidemment, ça fait partie de la manière dont on apprend à être des humains, à savoir que ça fait mal et qu'il ne faut peut-être pas le faire. Mais il n'empêche, c'est assez inattendu comme xième conséquence de la popularité de ce jeu qui est un phénomène de société, de constater qu'il y a des enfants qui se font moquer de cette manière parce qu'ils n'ont pas de quoi s'acheter une petite skin.
Non, puis cet article parlait de ce côté, voilà, tu mets pas d'argent pour acheter des skins Fortnite, sous-entendu, donc tu es pauvre, donc tu n'es pas intéressant. Et tu avais aussi, ça abordait aussi le côté que les enfants qui jouaient depuis leur smartphone étaient aussi stigmatisés. Parce que, bon, ça, c'est quelque chose que nous connaissons bien dans notre milieu, qui est genre les vrais jouent sur console ou sur PC. Et toi, tu joues sur smartphone. Donc, un, ça veut dire que tu n'as pas les sous pour avoir une console, tu n'as pas les sous pour avoir un PC. Donc, tu es nul et donc, tu n'es pas intéressant. Et c'est, mais ça, enfin, je vais dire, c'est la version 2019 du t'as pas les dernières baskets qu'il faut, ouais. T'as pas la doudoune qu'il faut, t'as pas les AirPods. Parce que ça aussi, j'avais lu un article hallucinant sur les AirPods devenus signe extérieur de richesse. Même si t'étais pas riche, il fallait avoir des AirPods pour donner l'impression que tu étais riche. Bah là, pareil, c'est sur Fortnite, il faut acheter des skins, et notamment les dernières skins qui sortent, pour prouver que t'étais riche, même si tu l'es pas. Et je trouve ça vraiment terrible, enfin rien ne change. C'est toujours la même chose. Enfin, ouais. avec les enfants, avec les ados, que ce soit dans les années 50 ou aujourd'hui, on revient toujours à la même chose. C'est les signes extérieurs de richesse.
Oui, je crois que ces signes extérieurs de richesse, c'est pour moi, c'est aussi le fait que, quand on dit souvent les enfants sont cruels, parce que l'empathie, ça s'apprend, quoi. Et que au début, tu sais pas. De la même manière que tu sais pas que quand tu mets ta main sur un truc chaud, tu dois te brûler, tu dois le faire une ou deux fois avant de comprendre. Et voilà. Alors évidemment, il y a aussi le rôle des parents là-dedans, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu inévitable. Mais en même temps, à lire l'article, ça fait mal au cœur, quoi. C'est vraiment. Oui. C'est vraiment
ça fait mal au cœur, parce que quand on se dit que, à la base, tu te dis Fortnite, c'est un jeu ultra démocratique parce que ça peut être joué sur n'importe quelle plateforme, c'est gratuit. Donc, techniquement, tous les enfants d'une école peuvent jouer à Fortnite. Ils peuvent jouer ensemble. Mais en fait, non. Et on trouve quand même des moyens de faire des différences entre les joueurs de Fortnite en fonction de leur appareil, en fonction de l'argent qu'ils mettent dedans.
Je crois que. Il y a des gens qui font ça. Il y a évidemment, je suis sûr, énormément de gamins qui font pas ça, quoi. Donc, c'est, faut pas non plus penser que, j'en sais rien, mais je peux pas imaginer que tous les enfants de la Terre soient des assholes de ce genre. Mais, ouais, enfin bon, bref, c'est ce que je dirais, deux choses. D'une part, l'histoire signée extérieure de richesse, je te combattrais jusqu'à la mort sur cette idée. C'est pas non plus quelque chose d'hyper impossible d'avoir un skin différent. Tu vois, tu peux avoir un season pass, il y a des events où tu peux avoir accumulé des fonctions, des comment dire, de la monnaie en jeu pour acheter des trucs. Avoir une skin différente, c'est pas trop trop difficile. Et puis au pire, la skin, elle coûte quoi, 5 euros, 10 dollars. Si tu passes, je sais pas, 10 heures par semaine sur le jeu, je pense que la plupart des parents, évidemment, il y a des gens qui sont très pauvres, mais la plupart des parents pourront te lâcher une dizaine d'euros pour acheter une autre skin.
Mais je sais pas. Parce
que pour moi, c'est plus un problème d'attitude.
Parce que tu vois, lâcher 5 euros, tu te dis... je pense que pas mal de parents se disent aussi, on va pas dépenser de l'argent pour du virtuel, pour un truc purement virtuel. Qui va rien lui apporter, quoi.
Ensuite, ça, c'est un autre débat.
Après, j'ai quelques cas de que je connais d'enfants qui profitent pour chourer les codes de carte bleue de leurs parents acheter des V-Bucks dans leur dos.
Ça, c'est un autre problème, effectivement. Est-ce qu'on va lui lâcher 5 euros ou 10 euros pour un truc virtuel qui va rien lui apporter? À mon avis, ça, c'est des parents dont il faut qu'ils se mettent au goût du jour, quoi. Il faut justement comprendre l'importance qu'ont les loisirs de leurs enfants. Même s'ils sont différents des leurs et que les systèmes de valeurs, alors oui, il y a des choses qui sont importantes et qu'il faut inculquer aux enfants. Mais l'idée que tel loisir n'a pas d'importance parce que il est pas, je le comprends pas, c'est un gros problème aussi dans la relation. Mais bon, là, on s'écarte un petit peu du sujet de base. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que peut-être qu'Epic a un rôle dans ce problème, un rôle à jouer, parce que évidemment, eux, leur intérêt, c'est que plein de gens achètent des skins, mais peut-être qu'il faudrait, de manière un petit peu responsable, ils en parlent d'ailleurs dans l'article, ils pourraient avoir un rôle dans l'idée d'encourager certains streamers populaires, par exemple, à jouer avec le skin par défaut, ou créer un événement, c'est le skin défaut, c'est Patricia Hernandez qui a écrit cet article, que je vous encourage à lire, pour éduquer sa base de joueurs sur le fait que même si on a un skin par défaut, on est parfaitement valable comme joueur, quoi. Peut-être qu'il pourrait faire un truc comme ça, ça serait
Il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir au lieu qu'il n'y ait qu'une seule skin par défaut, qu'il puisse y en avoir plusieurs, qu'on puisse quand même avoir des options pour personnaliser son personnage même si on n'a pas payé, évidemment beaucoup plus limité que si on avait acheté des V-Bucks, mais qu'il y ait un peu plus de variété peut-être dans les silhouettes par défaut.
Peut-être. Oui, mais là, ça va à l'encontre de leur business model complètement.
Ah coup, oui, mais bon, hein, quand on veut être responsable.
Ah, mais est-ce qu'une entreprise peut être volontairement responsable ? Peut-être qu'il faut mettre la pression sur eux, que le pouvoir de la presse tombe sur Epic. D'ailleurs, ils sont la preuve. Ils s'intéressent à leur cas et c'est évidemment positif. Allez, on va conclure. La presse japonaise, l'industrie du jeu vidéo au Japon se porte mieux qu'il y a quelques années. C'est rien de le dire. J'évoquais souvent le fait que il y a quelques années, les Japonais étaient presque en train de péricliter. Oscar Lemaire, notre ami que je mentionnais tout à l'heure, a fait un très bel article sur Gamekult sur ce sujet. L'article, c'est de Sekiro à Kingdom Hearts. Comment se portent les jeux du Japon côté business? Et la leçon, c'est que plutôt pas trop mal. Gros succès pour Final Fantasy XV, le plus gros depuis Final Fantasy X à la grande époque, ou alors à la fin de la grande époque, on va dire. Gros succès pour Nier Automata, assez inattendu. Kingdom Hearts 3 a aussi fait un carton. From Software, on le sait, se porte très très bien, est devenu une icône. Le seul point noir, je dirais, pour moi en tout cas, c'est que les jeux de baston, c'est pas tout à fait ça. Et évidemment, ils ont une place spécifique dans mon cœur. Mais bon, c'est pas non plus aussi. On en a eu beaucoup qui sont sortis ces derniers temps et c'est pas le succès qu'on aurait pu espérer. Ils sont presque tous moins bien vendus que les épisodes précédents. C'est le cas de Street Fighter V, dont on sait qu'il a été chaotique. Évidemment, Marvel vs Capcom Infinite qui s'est planté, mais aussi Tekken 7 qui s'est moins bien vendu que Tekken 6 à date. Hein. Maintenant, peut-être que les choses continueront à évoluer, mais même si ce n'est pas des jeux qui sont mal vendus, ils ne sont pas aussi bien vendus qu'on aurait pu l'espérer. Donc, c'est le seul point noir pour moi. À part ça, Square se porte bien, Capcom se porte bien, From se porte bien, bref, tout va bien. Bon, pas pour tout le monde.
Et c'est une excellente nouvelle.
Et c'est
moi, je suis extrêmement heureuse que les studios japonais soient parvenus au meilleur de leur forme. Et après cette décennie un peu noire où c'était franchement pas génial, hein, donc toute la période PS3, Xbox 360 où c'était un peu un petit peu pénible, là ça y est, enfin c'est bon, ils nous font des super jeux. Moi qui adore les jeux japonais, je suis ravie et j'espère que ça va continuer comme ça sur les prochaines générations qui ne vont pas nous refaire genre « Ah non, la prochaine génération, on ne sait plus faire et on refait des jeux un peu nuls ». Non, j'espère qu'ils vont continuer sur cette belle lancée.
Oui, je crois qu'ils ont compris ce qu'ils étaient en fait. Ils ont compris ce qu'ils savaient faire et comment le faire. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent en si bon chemin. Dernier mot pour dire que John Wick est dans Fortnite. On parlait de Fortnite. Moi, je trouve ça très intéressant la manière dont Fortnite est devenu un moyen de promotion pour des événements culturels. On avait vu Avengers, là, il y a John Wick. Je suis sûr que ça va continuer. Il y a plein de choses qui peuvent passer par Fortnite pour leur promotion et je pense que John Wick n'est pas le dernier. Là où Avengers, je pense que c'était un échange de bons procédés, John Wick, je pense qu'ils ont sorti le chéquier pour être dans Fortnite.
Oui, je pense aussi. Hein.
Mario Maker 2 arrive, on avait déjà la date, mais il y a plein de nouveautés qui ont été montrées, dont un story mode, pourquoi pas. Et il y a une promo sur le Nintendo Switch Online, on peut acheter deux jeux pour 100€. En gros, hein, je schématise, donc si vous vous intéressez à Super Mario Maker 2 et un autre jeu, peut-être que vous pourriez aller en profiter. Et puis voilà, je vais passer sur les autres news qui sont un petit peu moins importantes parce que ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on est ensemble. Tu as été très généreuse avec ton temps et je t'en remercie. Avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire où les auditeurs peuvent te retrouver sur Internet ou ailleurs ? Non, peut-être que sur Internet quand même, ne soyons pas trop fous.
Ah si, sur papier.
Très bien.
Vous pouvez me retrouver chez votre marchand de journaux quasiment tous les jours dans le Figaro Économie. Dernière page, la page médias et publicité. Sinon, sur Internet, toujours sur lefigaro.fr, rubrique médias. Et sinon, sur Twitter, @w_chloé, où je parle de médias, mais aussi de jeux vidéo et d'autres choses, de Game of Thrones quand je suis énervée.
Super, bah le lien sera dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver les notes, enfin l'article de cet épisode sur frenchspin.fr et vous retrouvez d'ailleurs le rendez-vous tech également sur ce site-là. Si vous voulez commenter sur tout ce qu'on a dit, n'hésitez pas à le faire sur le site. On sera de retour, bah, je pense, pour l'épisode de l'E3. Je ne crois pas qu'on en fera un entre-temps, mais on verra si l'actualité le demande. Oui, c'est la dernière ligne droite avant l'E3. Moi, je suis très excité. J'espère que tu vas bien t'amuser là-bas, Chloé. Je te souhaite le grand plaisir de cette fête du jeu vidéo. Et puis, on suivra tes actualités sur Twitter, évidemment, pour avoir tout ça en direct. Merci d'avoir été là. Et à dans quelques semaines pour le prochain épisode. Ciao à tous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.